imagination. Une série d'entretiens proposés par Alain Prochian, neurobiologiste, professeur au Collège de France.
Nous poursuivons notre série d'entretiens sur le thème imagination, série au cours de laquelle nous interrogeons des scientifiques et des artistes, histoire de comprendre ce qui les rapproche, mais aussi ce qui les sépare. Et ce cinquième entretien me permet d'accueillir le professeur Françoise Gombes. Françoise Gombes, merci d'être venue.
Merci, bonjour.
Vous êtes astrophysicienne à l'Observatoire de Paris et aussi titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie du Collège de France. Françoise Gombes, vous travaillez sur les galaxies, sur leur formation, sur l'histoire de l'univers. Et ça demande beaucoup d'imagination, en l'occurrence.
Oui, en effet, l'imagination pour les astronomes, c'est leur travail quotidien, en quelque sorte. Enfin, je pense que depuis la nuit des temps, les hommes se demandent d'où nous venons, quelle est l'origine de l'univers, d'ailleurs de quoi il est fait cet univers, et puis où allons-nous ? Donc, si on peut remonter un peu l'histoire, c'est très amusant parce que les gens se sont fait une représentation de l'univers très naïve et très très simple au début. Donc, on peut remonter d'ailleurs à moins 2000 avant Jésus-Christ. On a retrouvé un disque de Nebra en Allemagne. C'est un disque qui est remarquable. Il est vert, il fait à peu près 30 cm. Il est avec des incrustations d'or et on voit le soleil, la lune, et on voit même 32 étoiles et un amas d'étoiles. Ce qui est fantastique, parce que même en Mésopotamie, en Égypte, où on pense que les gens étaient très astronomes à l'époque, il n'y a pas de reste de ce style.
Il a quel âge ?
Moins 2000 avant Jésus-Christ. Et c'est dans un musée allemand, c'est très, très spectaculaire. Enfin, c'est un des premiers éléments où on voit que les hommes regardaient le ciel et pouvaient déterminer les étoiles avec des phases de la Lune, par exemple. Et donc, on voit bien qu'ils s'interrogeaient un petit peu sur ce qu'ils voyaient dans le ciel la nuit. Et puis, on peut remonter ainsi certaines représentations de la cosmologie. Et en fait, les gens avaient déjà... La cosmologie, ça voulait dire la Terre, à l'époque. Ça n'allait pas beaucoup plus loin. Mais on voyait, la Terre était plate. Alors, il y a beaucoup de représentations.
Pour certains, elle l'est toujours.
Maintenant, on a des satellites, tout de même. On peut la voir d'en haut. On peut voir qu'elle est bien ronde. Mais donc, il y avait une Terre plate. Parfois, ils le mettaient sur une tortue. Parce que la tortue avait un dos rond et ça représentait le globe terrestre. Et bon, c'était plat, mais il y avait quand même des océans. Et puis au bout du cercle, il y avait des montagnes qui retenaient l'eau pour pas que l'eau se descende en cataracte dans le vide sidéral, etc. Donc c'était curieux comment ils pouvaient se représenter que l'eau pouvait tenir. Et puis donc, et ça a duré pendant un certain nombre d'années, de milliers d'années. Il y a quand même les philosophes grecs, Démocrite par exemple, avait imaginé d'autres planètes, donc des mondes à part. C'est un des premiers qui a pensé aux exoplanètes. Aujourd'hui, nous avons 6000 exoplanètes détectées. Donc on a confirmé depuis 1995 l'existence des exoplanètes. Et on voit bien que l'imagination, elle est toujours en deçà de la réalité. Les gens imaginaient des tas de choses, mais on a trouvé des exoplanètes avec beaucoup d'autres caractéristiques que ce que les gens avaient imaginé. Donc c'est l'imagination des hommes ne sont pas aussi vastes que la réalité.
Le cerveau, c'est tout petit par rapport à une planète. donc c'est probable que notre imagination est un peu contrainte par l'évolution des espèces.
Oui, mais nous avons quand même 200 milliards de neurones et paradoxalement, c'est exactement le même nombre d'étoiles dans la galaxie. On a 200 milliards d'étoiles aussi dans la galaxie.
Un neurone par étoile.
Voilà.
Oh, comme c'est joli, voilà. Donc, vous avez travaillé sur l'origine des galaxies, ce qui veut dire leur formation, c'est-à-dire comment une galaxie se forme. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont les galaxies sont construites ?
On sait comment les galaxies se forment. D'abord, peut-être qu'on pourrait dire qu'on le sait depuis très récemment, parce que tout de même, même au début du XXe siècle, il n'y a même pas un siècle, on se demandait vraiment si les galaxies existaient. Donc, ce qui veut dire que quand même, notre vue sur l'univers est très récente. Et on peut même dire que la cosmologie est une science exacte depuis vingtaine d'années. Donc les galaxies, on sait qu'elles se forment. Pourquoi ? Parce que on remonte le temps. C'est-à-dire qu'on regarde très très loin dans l'univers avec des télescopes comme le télescope spatial Hubble qui permet des vues profondes. Il est dans l'espace, donc il n'est pas gêné par l'atmosphère de la Terre qui nous crée des turbulences. Donc on voit très très loin. Et en astronomie, quand on voit très loin, on ne peut pas voir des choses contemporaines. On est obligé de remonter le temps, vu que la lumière a une vitesse finie, 300 000 km par seconde, et que les distances sont tellement grandes que la lumière n'a pas eu le temps de nous parvenir. Donc lorsqu'elle nous parvient, on voit le message que nous ont envoyé ces galaxies lorsqu'elles étaient très jeunes. Et ainsi, on remonte jusqu'au Big Bang, c'est-à-dire jusqu'au début de l'univers. Et aujourd'hui, on remonte jusqu'à 13 milliards d'années, alors que l'univers a 13,8 milliards d'années.
Comment on sait qu'il a 13,8 milliards d'années?
Alors là, on a beaucoup, beaucoup d'informations. C'est un faisceau d'informations. On peut commencer par le Big Bang est un univers très chaud. Donc, il était dominé par le rayonnement qui faisait des milliards de degrés. Et dans l'expansion de l'univers, l'univers s'est refroidi. Aujourd'hui, il a 3 degrés Kelvin de température.
D'accord.
Et c'est ce rayonnement micro-ondes, d'où le satellite, les satellites américains, Kobe d'abord dans les années 90, puis WMAP dans les années 2000. Et dans les années 2010, le télescope satellite Planck, européen, ont cartographié tout l'univers en micro-ondes. Et c'est ce rayon micro-ondes qui nous apprend beaucoup de choses sur l'univers, notamment cet âge 13,8, qui avec une très très grande précision, on commençait à connaître 12-13, mais là Planck, depuis 2013-2015, donc nous a donné cet âge de 13,8 milliards d'années. Donc ça vient du micro-ondes, du rayonnement micro-ondes, qui a des fluctuations. Alors l'univers était très 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 homogène au départ. Donc ce qu'on voit dans le rayonnement micro-ondes, ce n'est pas exactement le Big Bang, c'est 300 000 ans après le Big Bang. Pourquoi ? Parce que au début, les protons, électrons, sont encore ionisés. Donc, il y a un plasma de particules ionisées qui est en équilibre avec les photons, et on n'arrive pas à former de structure. Jusqu'à 300 000 ans, les protons, les atomes ne sont pas encore formés. Et puis, par l'expansion de l'univers, la température descend en dessous de 3000 degrés. Et à 3000 degrés, l'atome d'hydrogène se recombine. Donc, protons, électrons donnent un atome d'hydrogène. Et à ce moment-là, l'atome se découple des photons, du rayonnement, et on peut commencer à former des galaxies. Et puis l'univers est transparent, alors qu'autrefois, lorsqu'il était un plasma, des particules chargées, il était opaque, vu que le rayonnement, tous les photons, étaient diffusés par les particules chargées. Donc c'est ça qui est notre limite, c'est il y a un mur opaque à 400 000 ans après le Big Bang.
Bon, ben ça, il va falloir travailler. Comment se fait-il que ces découvertes n'ont que 20 ans? Qu'est-ce qui s'est passé dans les 20 dernières années qui fait que vous avez eu accès à cette connaissance parce que c'est brutal quand même.
Ah, c'est bon, je vais peut-être quand même, on ne va pas remonter tout le Newton, Galilée, etc., mais on va repartir du XXe siècle quand même. Parce que, comme je disais, en 1920, on ne savait toujours pas ce qu'il y avait des galaxies. On avait une grande bataille, d'ailleurs, c'est très intéressant à noter, puisqu'il y avait Arlo Chapelet qui se battait avec Hébert Curtis, deux astronomes. Et l'un disait que les nébuleuses que l'on voit dans le ciel, il y a beaucoup de nébuleuses, la nébuleuse d'Orion, la nébuleuse d'Andromède, par exemple, eh bien, ce n'était pas des galaxies, c'était du gaz diffus. Et l'autre disait que c'était des galaxies, la nébuleuse d'Andromède, on le sait aujourd'hui, c'est une galaxie comme la nôtre, la Voie lactée, qui formait de tas d'étoiles. Mais à l'époque, on ne pouvait pas le distinguer. Donc les télescopes n'étaient pas assez précis pour regarder étoile par étoile. Donc lorsqu'on voit la Voie lactée dans le ciel, on a l'impression d'un ruban laiteux, d'où le nom Voie lactée. Mais c'est une myriade d'étoiles. Et au départ, on pourrait penser que c'est une nébuleuse de gaz qui émet, qui est luminescent. Donc là, ça fait, en 1920, c'était ce problème-là. Et la taille de la Voie lactée n'était pas connue. Donc justement, Chapelet pensait qu'elle faisait 300 000 années-lumière, alors que pour Curtis, ça en faisait 10 fois moins. Et donc, ça permettait d'avoir une galaxie, puis d'autres galaxies autour. Et finalement, c'est bien Curtis qui a gagné. Et puis, en 1929-1930, Hubble a déterminé l'expansion de l'univers. Donc là, l'expansion, c'est fondamental. On a compris que l'univers était en expansion en 1930 seulement. Et avant, 1925, Einstein avait produit l'équation de relativité générale, qui montrait que justement la géométrie de l'univers, le fait qu'elle soit sphérique, hyperbolique ou l'univers plat que l'on a aujourd'hui, on sait pourquoi il est plat, eh bien, dépendait que de la masse qui est à l'intérieur. S'il y a un univers sans rien, sans matière, il n'y a pas d'univers. L'univers dépend surtout du contenu. Donc, est-ce qu'il y a de la matière, de l'énergie ?
L'univers plat, ça veut dire quoi ?
Alors, l'univers plat, ça ne veut pas dire qu'il est plat comme cette table, hein, mais ça veut dire que les photons se déplacent en ligne droite. Alors que si l'univers est courbe, les photons se déplacent en ligne courbe. Et si l'hyperbolique, c'est une hyperbole, la trajectoire des photons. Donc là, c'est très simple. On sait qu'il est plat, mais avec une grande précision, grâce au satellite Planck. Et ça nous simplifie la vie, parce que s'il y avait quand même beaucoup de photons qui nous arrivent des galaxies et que la trajectoire est hyperbolique, ce serait assez compliqué de reconstruire les galaxies après coup.
D'accord, de les calculer.
Voilà.
Donc, c'est un progrès technique, en fait. C'est l'amélioration des télescopes.
Non, il y a les deux. Il y a une partie imagination. Il y a aussi les concepts. Parce qu'en fait, Slipher avait déjà vu que toutes les nébuleuses, enfin, qui sont devenues galaxies, elles avaient un effet Doppler, donc une vitesse que l'on peut mesurer par les rayons optiques, qui était toute décalée vers le rouge. Donc elles s'éloignent de nous, et bon, personne n'avait dit, il n'y avait pas eu de déclic. Et c'est Hubble qui, en 1930, a dit, bon, ben, finalement, l'univers est en expansion. Mais juste avant, il y avait eu Einstein qui, par l'imagination pure, avait imaginé, par les covariances de l'espace, etc., ces équations d'Einstein. Et ces équations montraient que l'univers n'était pas stable. Il ne pouvait pas être stationnaire. Et Einstein aimait quelque chose qui soit très stationnaire. Rien n'a commencé, rien ne finit. Tout est immuable. Et donc, il avait dit, ça ne va pas. Soit mon univers entre en expansion, soit il se collapse, enfin, il s'effondre. Et il a rajouté une constante lambda, une constante cosmologique, qu'il a regrettée plus tard, parce qu'en fait, on n'en avait pas besoin à l'époque. Et 5 ans plus tard, Hubble a dit que l'univers était en expansion. Donc il n'y a plus du tout besoin de rajouter cette constante pour que l'univers soit immuable et constant et stationnaire.
Qu'est-ce qui se passe si on retire la constante ?
Alors si on retire la constante, eh ben, l'univers bouge énormément, donc il rentre en expansion. Alors ça dépend de la densité qu'il y a. Donc il y a, si l'univers, la densité moyenne de l'univers est plus grande qu'une densité critique, à ce moment-là, après le Big Bang, il va retomber sur lui-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gravité qui va le faire retomber. Comme une pomme qu'on lance ici, elle retombe par la gravité. Et si la densité est inférieure à la densité critique, eh bien à ce moment-là, on a une vitesse d'échappement et l'univers s'en va être en expansion infinie.
Alors ça nous amène, de certaine façon, au rapport intime entre les mathématiques et la physique.
Exactement.
C'est-à-dire que ça, et le biologiste, là, il est tout à fait jaloux. Hein, parce que modifier une équation et trouver ou équilibrer une équation et trouver une particule ou trouver, savoir si l'univers est en expansion ou au contraire c'est en train de se collapser sur lui-même ou reste tranquille, égal à lui-même, c'est le résultat quand même d'une spéculation mathématique. Comment ça se passe une chose pareille ?
Parce que Oui, ça c'est assez fascinant en fait quand on regarde bien parce que Einstein, bon, est un génie, on sait que c'était le génie du XXe siècle. Mais il avait, juste par des suppositions, donc d'imagination, montré que ça ne pouvait être que comme ça. C'est-à-dire qu'il devait y avoir des lois de conservation, de symétrie, y avoir des covariances. Et ainsi, donc on écrit une équation, mais pour qu'elle soit la même dans tous les repères, etc., que ça ne dépend pas des repères, ça fait des contraintes, et donc on est obligé d'avoir cette équation-là.
Mais ces contraintes, on se les donne au nom d'une beauté des équations ?
Ah non, ce n'est pas une beauté, c'est de la physique. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que si les lois ne sont pas les mêmes dans un autre repère qui va à une certaine vitesse, ça ne va pas. On ne peut pas avoir des lois physiques qui dépendent du lieu où on est dans l'univers. C'est pas possible. On fait l'hypothèse que les lois sont les mêmes partout, sinon ce n'est plus de la physique.
D'accord. Mais du coup, vous équilibrez vos équations et ça vous donne une vue sur la structure
Mais
du
même
cosmos.
Le destin de l'univers.
Sur le destin de l'univers.
Le destin, est-ce qu'il va être en expansion indéfinie ? Est-ce qu'il est géométriquement courbe, fini ? Parce qu'en fait, si la densité est supérieure à la densité critique, l'univers est fini. On peut le représenter, par exemple, à 2 dimensions. C'est comme la surface d'une sphère. Et quand on part d'un côté, on va retomber sur son chemin de l'autre côté. Donc l'univers est fini. Par contre, on sait aujourd'hui qu'on est dans un univers infini. Et on le sait grâce aux équations. Mais aussi, maintenant, on l'a vérifié par la technique après coup. Mais on l'avait déjà montré ici. Alors, si on regarde les étapes et les concepts qui ont fait le XXe siècle et pourquoi on est arrivé là, il faut penser à... En 1940-50, il y avait Gamov. Qui regardait les réactions nucléaires dans les étoiles. Il avait vu que dans les étoiles, on transforme l'hydrogène en hélium, mais que les quantités d'hélium formées ne sont pas assez grandes. Et il nous faut la former dans le début de l'univers, dans le Big Bang. Le Big Bang est très très chaud, donc très concentré. On a des centaines de milliards de degrés, donc on peut déclencher les réactions nucléaires. Et donc l'hydrogène, lorsqu'il est là, il va se transformer en hélium. Et tout l'hélium que l'on voit autour de nous est formé dans le Big Bang.
C'est une belle mémoire,
exactement.
Le Big Bang, l'hélium, donc.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Sing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition,
1.
And may God's love
lift
be
off
with you. This is ground control to Major Tom.
France Culture, imagination, Alain Prochian.
Chère Françoise Combes, donc, je rappelle que vous êtes astrophysicienne, professeure au Collège de France. Et vous n'aviez pas tout à fait terminé de nous expliquer pourquoi il y a eu un progrès aussi brutal dans la compréhension de l'origine des galaxies.
Donc, dans les années 40-50, il y avait quand même le progrès de Gamow qui nous montrait que les éléments étaient formés dans le Big Bang et qu'il devait avoir un Big Bang, parce que ce n'était pas évident à l'époque. Enfin, il devait y avoir un début de l'univers dans lequel se forment tous les éléments. Et il avait même prédit la quantité de matière qu'il y a dans l'univers par rapport à la densité critique donc, qui ferme l'univers, c'est 5% du total. Donc le nombre de matière devait être 5%. Et puis il avait prédit que peut-être on pourrait observer ce fond cosmologique, la relique du Big Bang, pourrait être observé. Et puis ça a été observé dans les années 60 par Penzias et Wilson. Ça, c'était un jalon puisqu'on a découvert le vestige du Big Bang. Donc, c'était une preuve que ce Big Bang existait parce que tout le monde n'était pas d'accord. Et à l'époque, il y avait Fred Hoyle qui faisait des émissions à la BBC. Et c'était un des fervents du modèle stationnaire. Alors il voyait bien qu'on était en expansion, mais ça veut dire que toutes les galaxies s'en allaient. Mais il y avait de la création de matière. Dans les quasars, ils avaient pensé qu'ils se créaient de la matière pour compenser l'expansion et qu'on avait été stationnaire. Et donc, pour se moquer des partisans d'un début à l'univers, ils avaient appelé ça Big Bang, pour dire que c'est rigolo, c'est des fumistes, ces gens-là. Et ce terme Big Bang est resté, donc après l'émission de Fred Hoyle à la BBC. Donc, ce Big Bang a été prouvé dans les années 60-70. Et puis, peu à peu, on s'est dit, bon, puisque ce Big Bang est là, il est homogène, comment se fait-il qu'il y ait des galaxies quand même? D'où la formation des galaxies était même une question. Parce que on avait une homogénéité très très forte de l'univers au début. Donc on pense que 300 000 ans après le Big Bang, on devait avoir des fluctuations assez grosses pour pouvoir former des structures. Et ces structures, aujourd'hui, elles sont très non linéaires. On a des galaxies dont le rapport de densité galaxie sur le vide est plus que 1000 ou 2000. Donc, il faut une grande fluctuation de densité. Et ce n'est que vers les années 80-90 qu'on a pu envoyer un satellite pour voir un peu ces fluctuations. On s'est aperçu que ces fluctuations sont très, très petites. C'est-à-dire que 300 000 ans après le Big Bang, on n'a toujours que 10⁵ de variation de densité. Donc, delta rho sur rho, si rho est la densité, c'est tout petit, 10⁵, 1 pour 100 000. Et c'est là qu'on s'est aperçu, par exemple, qu'il y aurait de la matière noire qui ne serait pas de la matière ordinaire faite d'atomes, comme on les connaît, parce que avec la matière ordinaire, on ne peut pas former les galaxies. On n'a pas assez de temps.
On va venir à la matière noire, ne vous inquiétez pas, parce que c'est quand même au centre de vos intérêts. Vous parlez souvent de l'origine de l'univers, comme s'il n'y en avait qu'un. En fait, combien y a-t-il d'univers, pensez-vous ?
Ah, ça c'est une bonne question. Nous n'en savons rien, mais l'imagination, là aussi, nous permet d'imaginer qu'il y a des multivers, c'est-à-dire une infinité d'univers, notamment grâce à l'inflation. Parce qu'évidemment, notre univers, nous n'en verrons qu'un. Donc, tous les multivers, c'est quand même de l'extrapolation de la métaphysique, puisqu'on ne pourra jamais les voir, hein, ça on le sait. Mais l'inflation, c'est quand même la théorie principale pour l'origine du Big Bang. Donc, pourquoi y a-t-il des fluctuations, même aussi petites que 10⁵? Eh bien, il faut une inflation, c'est-à-dire l'univers serait né de rien, du néant, de la vide quantique. Ce vide quantique, on sait qu'il a des fluctuations d'énergie quantique. On le vérifie en laboratoire. Donc, on s'imagine qu'il y a ces fluctuations quantiques et qu'il y a une inflation qui fait croître la taille de l'univers, de ces petites fluctuations, d'un facteur 10 puissance 60. Donc, de microscopique, ça devient macroscopique. Et donc, cette inflation a pour effet qu'on ne peut plus l'arrêter. Donc, on a inflationné un univers, le nôtre, par exemple. Mais il y en a des tas d'autres qui sont... évidemment inaccessible pour nous, mais qu'il y aurait des infinités.
Mais ça se prouve, ça ?
C'est dans l'équation d'inflation, mais l'inflation, on ne l'a pas encore prouvé. Donc, c'est l'imagination pour l'instant.
Donc, pour l'instant, on imagine qu'il y a des multivers, ou un multivers, je ne sais pas comment on dit un multivers.
Ou des oui, on peut dire les deux. Hein.
Mais c'est une idée mathématique qui n'est même pas encore prouvé mathématiquement, si je comprends bien.
Mathématiquement, enfin, les équations sont cohérentes entre elles, oui. Donc ça peut tenir. Par contre, il faudrait une preuve, parce que ça ne suffit pas d'avoir une équation. L'équation peut tenir, être cohérente, mais ça ne correspond à rien.
Et la preuve peut être de quelle nature ?
Alors la preuve, on attend la preuve avec les ondes gravitationnelles du Big Bang. Et ça, ce qu'on a cherché dans le satellite Planck. Et même, il y a eu une fausse alerte avec une observation au sol qui s'appelait BICEP, au pôle sud, et qui avait trouvé dans un petit coin du ciel des fluctuations de type magnétique, c'est-à-dire qui serait une signature de ces ondes gravitationnelles, qui serait la signature de l'inflation.
Alors, les ondes gravitationnelles, ça y est.
Attention, ce n'est pas les mêmes.
Ah, d'accord.
C'est des ondes gravitationnelles primordiales. Alors, ce qu'on a détecté en effet en 2015, ce sont les ondes gravitationnelles dues à la fusion de deux trous noirs de masse stellaire. Donc à ce moment-là, ça a une longueur d'onde assez petite. Là, ce serait une longueur d'onde très très grande qu'on ne peut pas du tout observer ni avec LIGO, Virgo, ni même avec LISA, qui sera le télescope à onde gravitationnelle qui sera envoyé dans l'espace dans quelques années.
Donc c'est par un télescope de puissance extrême qu'on pourra un jour avoir accès à la preuve de l'existence des multivers ?
Voilà, en fait, ce n'est pas tout à fait un télescope, parce qu'on ne pourra pas, la longueur d'onde ferait plutôt des années-lumière comme longueur d'onde. Donc, en fait, on pense soit à leur signature dans le fond cosmologique, donc un autre satellite, une suite au satellite Planck, pour regarder encore plus en détail le fond cosmologique. Ce qui est embêtant là-dedans, c'est qu'on a des avant-plans, et ce qui nous a embêté avec la manip de BICEP 2, justement, c'est qu'on avait confondu les ondes gravitationnelle avec de la poussière qui était dans la Voie lactée. Donc ça, c'est embêtant. Mais aussi, il y a un télescope qui serait naturel, si je puis dire, qui serait fait avec des pulsars. Alors les pulsars, ce sont des étoiles à neutrons qui tournent autour d'elles-mêmes en millisecondes. Donc une étoile qui tourne 1000 fois par seconde sur elle-même.
Avec de quelle taille ?
De la taille du Soleil. Enfin non, au début, la masse du Soleil. Oui. Mais évidemment, quand elle est étoile à neutrons, elle fait un kilomètre ou deux. Alors que le Soleil fait 700 km de rayon. Donc cette étoile à neutrons, elle a une période, extrêmement précise. C'est vraiment la mesure en astronomie qui est la plus précise. On a 14 chiffres significatifs. Et donc, s'il y a une perturbation de l'espace, c'est-à-dire une onde gravitationnelle qui perturbe l'espace, à ce moment-là, cette onde va nous arriver avec une période différente, 10-14 fois différente, mais enfin différente, et on pourra le mesurer avec ce pulsar. Alors, on aura un réseau de pulsars avec les télescopes qui viennent. Pour l'instant, on a 200 pulsars de ce type, mais on va en avoir 20 000 bientôt. Et donc, on aura des pulsars un petit peu distribués partout autour de nous, dans quelques années-lumière. Et donc, ça va
Dans quelques années-lumière.
Non. Dans quelques années, on aura ce télescope.
Ah, d'accord.
Mais ces pulsars sont situés à plusieurs années-lumière.
Si dit jamais, je verrai ça.
on pourra le voir. Mais notre réseau de télescopes, donc, c'est constitué par ces pulsars. Et nous, on détecte les pulsars et leur période, et on peut savoir quelle est la déformation de l'espace.
Donc on va les utiliser comme des réseaux de télescopes.
Exactement.
Ça, c'est
et c'est ça qui va nous donner les ondes gravitationnelles de cette taille-là. Voilà. Sa longueur d'onde, c'est cette taille-là. On n'aura jamais un télescope de.
Et à partir de là, tu auras la preuve.
Voilà.
Des multivers.
Voilà.
Enfin, la preuve qu'il peut y avoir des multivers.
Voilà. Voilà. La preuve que l'inflation existe, c'est à l'origine de l'univers.
Dans la discussion que nous venons d'avoir, enfin, que tu viens de conduire. Enfin, j'essaie de relancer dans la mesure de mes pauvres moyens. Vous avez fait allusion au trou noir. Hein, et évidemment, de nouveau, c'est très poétique, hein, le trou noir. À quoi ça correspond? Qu'est-ce que c'est? Comment on les a découverts? Et quelle est la conséquence, en fait, de cette découverte sur le plan de la compréhension du cosmos?
Alors, on l'avait déjà imaginé, justement, si on parle d'imagination. Même Laplace avait premier dit que, finalement, si une étoile s'effondrait sur elle-même, elle allait tomber à une singularité. La définition du trou noir, c'est que la masse est tellement concentrée en un point que la vitesse d'échappement est supérieure à la vitesse de la lumière. Donc, même la lumière ne peut pas sortir. La lumière va être piégée. Et donc, on l'appelle ce trou noir, puisque la lumière n'en sort pas. Alors on peut avoir des trous noirs de n'importe quelle taille. Des trous noirs petits qui se forment régulièrement dans notre Voie lactée, parce qu'on a des milliards de trous noirs dans la Voie lactée, puisqu'à chaque fois qu'une étoile d'une certaine masse s'effondre et va former un trou noir, eh bien ces trous noirs-là sont très petits et très concentrés, et la vitesse, la gravité autour de ces trous noirs est très très forte. Et donc l'intérêt pour nous, c'est justement de tester la loi de la gravité, la loi d'Einstein, en champ fort. Il n'est pas sûr que la loi d'Einstein ait eu raison dans ces cas-là, parce qu'en fait, on va toucher à la mécanique quantique. Et un grand problème du XXe siècle et du XXIe, c'est de rendre cohérent la gravité et la mécanique quantique. Ça, on n'est toujours pas arrivé. Et c'est peut-être là que viennent tous nos problèmes dont on va peut-être parler.
Vous voulez dire Newton avec Einstein ou...
Einstein et la mécanique quantique, c'est-à-dire d'accord. Avec Schrödinger.
Donc là, Einstein est plutôt du côté de la gravité classique
Oui, au point de vue quantique classique, oui.
D'accord.
Et plutôt, Einstein, d'ailleurs, n'a jamais bien digéré la mécanique quantique. Hein. Il disait que Dieu ne jouait pas au dé, et puis il s'était trompé. C'était vraiment une approche probabilistique qu'on doit avoir de la fonction d'onde de l'électron, par exemple. Donc, il avait une vision très, très profonde sur la gravité. Par contre, sur la mécanique quantique, il était un peu réticent à accepter tous ces problèmes.
Ça ne nous éclaircit pas sur le trou noir, si j'ose dire.
Voilà, le trou noir, on a donc par imagination une petite idée, et puis après on l'a mesuré. En fait, on a comment on le mesure? C'est que on a beaucoup d'étoiles doubles, et lorsque une étoile tourne autour d'une autre, on peut mesurer la masse qui est à l'intérieur, simplement par l'équilibre gravitationnelle entre la force d'attraction et la vitesse qui fait la force centrifuge, donc on équilibre. Et on a des étoiles qui tournent comme cela, on mesure leur vitesse, mais il n'y a rien au centre. On en déduit la masse et on sait que ça ne peut être qu'un trou noir. Donc de ces objets-là, des binaires avec un trou noir, on en a plusieurs exemples dans la Voie lactée. Donc de ce genre de trou noir, on en a la preuve. Par contre, on a des trous noirs beaucoup plus massifs qui sont au centre des galaxies. Et ceux-là, il y en a de toute masse, entre 1 million et 1 milliard de masses solaires. Ils sont tous au centre des galaxies, tapis comme ça. Au centre de notre Voie lactée, on en a un qui est petit, 4 millions de masses solaires. Mais dans la galaxie de l'amas de la Vierge, mais c'est 87, on en a 4 milliards de masses solaires qui sont là. Et en fait, ils sont là parce qu'ils ont accumulé la masse tout au long de leur formation de la galaxie. et ils vivent en symbiose avec la galaxie.
Alors, on parle souvent de matière et d'antimatière. Est-ce qu'il y a un rapport avec les trous noirs ?
Non, pas vraiment. En fait, on pouvait penser au début, d'ailleurs, j'ai commencé ma carrière en faisant une thèse de troisième cycle sur la matière et l'antimatière. Et à l'époque, c'était le modèle d'Omnes, et qui proposait que l'univers soit fait à moitié de matière, à moitié d'antimatière. Alors évidemment, comme elles s'annihilent lorsqu'elles sont très proches, il y avait le modèle d'univers, c'était comme une vinaigrette, avec des taches d'huile et puis des taches de vinaigre. La jus, ce serait la matière, et le vinaigre, l'antimatière, par exemple. Et donc, l'annihilation ne serait qu'à la surface. Donc, ça permettait d'avoir des poches d'univers faites de matière, donc là où nous sommes. Puis, on a montré que ça marchait pas du tout. D'abord parce que on avait des rayons gamma qui étaient émis à la frontière, l'annihilation. Et à l'époque même, on avait déjà des télescopes rayons gamma qui ne voyaient pas tous ces rayons gamma. Et aujourd'hui, c'est encore plus contraignant, puisqu'on a beaucoup de satellites à rayons gamma. Et puis aussi la nucléosynthèse primordiale dont on a parlé tout à l'heure. Lorsqu'on a de l'antimatière dans ce fameux Big Bang, bien on ne va pas du tout former l'hélium et le deutérium avec les mêmes proportions. Donc on a montré, donc ça c'est mes premiers travaux, montré que ça ne marchait pas du tout.
Bon ben voilà une bonne nouvelle.
Je me suis trouvée là, dans ce corps inconnu. Pour Dieu, c'est quel gars-là. Je ne l'ai jamais su. Soudain parachuté dans ce monde étranger. Ange au supermarché, il m'a fallu danser. La Java des terriens, sans en connaître rien. Je fais un genre.
Culture, imagination, Alain Prochian.
Chère Françoise Combes, donc, je rappelle que vous êtes astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, que vous enseignez au Collège de France. Nous avons parlé trous noirs, mais nous n'avons pas vraiment encore exploré la question de la matière noire, qui, semble-t-il, reste un mystère.
Un vrai mystère.
Le mystère de la matière noire.
Le mystère se corse même, je dirais, ces dernières années. Vu qu'on connaît cette existence de matière noire depuis 1937 à peu près, lorsque les astronomes comme Zwicky avaient trouvé que l'amas de galaxies, Coma par exemple, qui est un amas proche, avec des galaxies qui se meuvent avec une vitesse assez grande. Et quand on regarde tout l'équilibre gravitationnel de cet ensemble, il ne peut être en équilibre que s'il y a énormément de matière, et 100 fois plus de matière que la matière visible était nécessaire à l'époque. Donc c'était un gros facteur qui était vraiment un gros problème. Donc même Zwicky à l'époque se demandait si, où était cette matière invisible, et puis peut-être s'il ne fallait pas changer la loi de Newton pour rendre compte de cela. Et puis peu à peu, on s'est aperçu qu'il y avait aussi cette matière noire autour des galaxies. Les galaxies tournent beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait attendre avec la galaxie visible, c'est-à-dire les étoiles et le gaz. Et on s'est quand même aperçu que dans les amas de galaxies, le problème de Zwicky, il était un peu résolu parce que on avait du gaz très très chaud qui émet en rayons X, qui fait 100 milliards de degrés. Et donc, il y a 10 fois plus de matière dans ce gaz chaud que dans les galaxies. Donc il y a une partie de la matière noire de Zwicky qui a disparu au cours du temps. Mais il en reste quand même un facteur 6, et non pas un facteur 100. Et aujourd'hui, on a toujours ce facteur 6. Donc là, ce 6, ça reste incompressible. Donc on a toujours ce problème de matière noire. Et on a maintenant bien confirmé, grâce au satellite Planck, justement, qui regarde dans le fond micro-ondes vestiges du Big Bang, on sait qu'il y a 25% du contenu total qui est fait de matière qui n'est pas du tout fait de matière ordinaire. C'est-à-dire que c'est même pas des protons, des neutrons, toute la matière qui fait tout ce qu'on voit autour de nous, même le système solaire est fait de matière ordinaire. Il n'y a pas de matière noire dans le système solaire. Donc il faut supposer qu'il y a une substance qui n'est pas connue, même pas dans les accélérateurs. Alors dans les années 70, 80...
Vous voulez dire des particules inconnues ou...
Exactement, qui ne sont même pas dans le modèle standard. Parce que justement, ça a correspondu à peu près dans 1980. On s'est aperçu que dans les accélérateurs, on voyait des tas de particules, des maisons, etc. Mais tout ça, c'était des combinaisons de quarks. Donc il y a eu un modèle standard qui s'est établi avec des quarks, et puis ensuite aussi des leptons, électrons, neutrinos. Mais aucune particule dans le modèle standard pouvait faire cette particule de matière invisible. Donc, ce soit quelque chose complètement exotique qui n'est pas, qu'on n'a pas encore détecté.
On ne peut pas l'imaginer mathématiquement.
Alors, on imagine, et c'est là que j'en viens. L'imagination a été encore très, très soumise à l'épreuve, là. Et les physiciens des particules ont imaginé une supersymétrie. Donc, à chaque particule que l'on connaît, ils ont associé une supersymétrique. Donc il y avait comme un miroir, un autre univers fait de particules miroirs où il y avait des fermions qui sont des spins 1,5, qui ont des bosons qui ont un spin non 1,5, etc. C'était un équilibre, un échafaudage qui était très symétrique et donc c'était très joli pour l'esprit. Donc une supersymétrie. Donc on s'attendait à voir au CERN, dans le supercollisionneur de protons, LHC, on s'attendait à voir, dès qu'on a obtenu une certaine énergie de collision, avec cette énergie, on devrait pouvoir créer ces particules. Et on s'imaginait qu'elles devaient avoir à peu près 100 fois la masse du proton.
Pourquoi ?
Alors parce que il faut quand même, non seulement il faut que la particule existe, il faut qu'elle soit stable. Donc on s'attendait à avoir la particule la plus stable de cet échafaudage supersymétrique. Et aussi, on sait qu'elle va s'annihiler parce que les particules matière noire n'ont pas de charge, donc ce sont leurs propres antimatières. Elles s'annihilent et puis au bout d'un moment... elles sont reliques. Pourquoi ? Parce que dans l'expansion de l'univers, elles ne se rencontrent plus. Donc, leur abondance est gelée et elles se gèlent. Et l'abondance que l'on a dépend de leur masse. Donc, si on avait plus que 100 fois la masse du proton, eh ben, on aurait eu moins de matière noire que prévu. Et si on avait un peu plus de masse, on n'avait pas la bonne abondance. On sait qu'il nous faut 25%.
Avec les 6%.
Voilà, 25% de matière noire, on a besoin. Et 5%, voilà. 5% de matière ordinaire et 25% de matière exotique. Et pour avoir ce 25%, il faut une certaine masse. Donc, on s'attendait à 100 fois la masse du proton. Et cette énergie a été atteinte au CERN. On a détecté, par exemple, en 2012, le boson de Higgs, qui a 125 GeV, c'est-à-dire 1,2 fois la masse du... Enfin, 125 fois la masse du proton. Et toujours pas de notre particule supersymétrique. Et aujourd'hui, on est à 10 fois cette masse. Et toujours pas de particules supersymétriques.
Et s'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait ?
Ah ben voilà, ben on est en crise. On est en crise et on imagine autre chose. Voilà, c'est finalement
c'est
rebondi.
Quoi, c'est quoi les autres possibilités ?
Alors les autres possibilités, ça devient plus ardu. Parce que maintenant, on est passé en revue toutes les particules un peu à l'équilibre thermique qui pouvaient être... Maintenant, on ouvre une boîte de Pandore. Alors on a des actions. On a des neutrinos stériles. Alors, neutrinos stériles, on sait qu'on a un neutrino actif qu'on a détecté, qui est difficile à détecter, mais on a des télescopes à neutrinos, parce que le neutrino traverse la Terre sans être dérangé, donc il faut des télescopes assez gros. On a détecté des neutrinos électroniques, des neutrinos mutaux, etc. Mais ces neutrinos sont actifs, ils interagissent avec la matière. Là, on a inventé des neutrinos stériles qui n'interagissent avec rien du tout, donc c'est pour ça qu'on ne les a pas vus. Donc on a beaucoup d'imagination, donc on a des neutrinos stériles, mais qui auraient une chiralité droite, alors que les neutrinos qu'on connaît ont une chiralité gauche. Donc ça fait une petite symétrie quand même, c'est assez satisfaisant. Et on a imaginé une certaine masse à ces neutrinos, assez grande pour faire un peu de matière noire. Mais en fait, ils ne sont pas quand même idéaux quand même comme candidats de matière noire, parce qu'ils ont une masse qui est un petit peu trop petite, et donc la structure des galaxies n'est pas exactement ce à quoi on pourrait s'attendre lorsqu'on regarde les galaxies dans l'univers. On n'a pas le même genre de structure. Donc, on n'est pas, c'est ce qu'on appelle la matière noire tiède, alors que le modèle standard, c'est la matière noire froide. Donc, ça ne convient pas tout à fait. Et puis, on a des actions donc, qui sont assez libres. Au départ, c'était pour compenser à une manque de symétrie conjugation de charge et parité, le CP. Mais aujourd'hui, on imagine qu'il y a énormément d'actions qui ont une masse 22 ordres de grandeur plus petites ou 33 ordres de grandeur plus petits. Donc tout est libre.
Hein, puisque... Comment il faudrait faire pour les découvrir? Quels sont les instruments qu'il faudrait mettre en place?
En laboratoire, on a essayé, par exemple, des actions pourraient, si un fort champ magnétique peut-être pourrait interagir avec le photon. Alors on a essayé de détecter ça dans le laboratoire, on n'a pas vu. Donc c'est très 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 dur. Alors par exemple, pour la particule supersymétrique que l'on attendait depuis 1985, donc plus de 30 ans, on a cherché dans les tunnels. On a des grands détecteurs. Au départ, ça faisait quelques kilos, parce que c'était des éléments très purs qu'il faut avoir. Il faut éliminer toute la radioactivité qui fait du bruit. Donc, il faut purifier l'élément. Donc, on avait quelques kilos. Par exemple, au début, c'était du germanium. Maintenant, c'est du xénon liquide. Et on a le meilleur instrument aujourd'hui, c'est le xénon une tonne, qui aura bientôt 2 tonnes ou 3 tonnes. Au Grand Sasso, donc on se met dans un tunnel pour que tous les rayons cosmiques du Soleil soient arrêtés par la montagne et qu'on puisse avoir une détection assez propre. Et on pense qu'une de ces particules matière noire va rencontrer la matière, va faire un recul, une énergie de recul, et on va pouvoir détecter cela. Mais depuis 30 ans, on ne détecte rien. Et donc la section efficace d'interaction, même avec une collision, quoi, est en train de descendre. On a des limites supérieures. Et on arrive à un plancher où même les neutrinos pourraient interagir et faire un petit recul. Et maintenant, tous nos détecteurs ne seront plus que des télescopes à neutrinos.
Quelle frustration. Mais enfin bon, ça permet de rêver.
Voilà, et d'imaginer d'autres candidats à la matière noire.
D'autres candidats, d'autres outils aussi construire. Voilà. Cher Françoise Combes, j'avais envie quand même, parce que le biologiste que je reste est admiratif devant cette poésie de l'espace, quand même incroyable, d'une beauté ahurissante, est toujours un peu étonné par la foi qu'ont les physiciens et les astrophysiciens, astrophysiciennes éventuellement, dans l'existence d'extraterrestres, enfin de vie extraterrestre, parce que bon, ce n'est pas les petits hommes verts dont il s'agit, bien entendu. Et je suis... Peut-être que parce que les physiciens pensent que le vivant est construit comme des machines, donc en fait, et que les biologistes sont peut-être plus terre-à-terre sur ce que c'est qu'un organisme, que la matière molle. Mais d'où vous vient cette certitude? Parce que chez vous, c'est une certitude absolue.
Oui, en fait, ça vient du fait, un petit peu le principe de Copernic, en fait. On voit bien que les hommes ont toujours cru qu'on était au centre de l'univers. Et donc, Copernic a montré que c'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, on n'était pas au centre, mais que nous tournions autour du Soleil. Et même en 1920-1930, lorsqu'on se demandait si les galaxies existaient, on essayait de faire une cartographie de toutes les étoiles qu'il y avait autour de nous, on la Voie lactée, et toujours on mettait le Soleil au centre, et puis la galaxie était tout autour. Encore une fois, on n'avait pas pris les leçons de Copernic, on était seul dans l'univers, le Soleil était au centre. Et on s'aperçoit qu'on n'a rien d'extraordinaire, que le Soleil est au bord de la Voie lactée, on est une petite étoile comme une autre sur les 200 milliards. Et maintenant, on a compris que l'univers est infini. Alors évidemment, on ne voit que ce qu'il y a à l'intérieur d'un certain horizon, puisque on sait que l'univers a commencé à une date donnée, il y a 13,8 milliards d'années. Et donc la lumière a eu un certain temps, 13,8 milliards pour nous parvenir. Donc on ne voit que jusqu'à cet horizon-là. Mais dans cet horizon, on a pu déjà détecter 300 milliards de galaxies. Donc quand on sait que on a détecté au voisinage du Soleil, mais vraiment la banlieue du Soleil, on a déjà détecté 6000 exoplanètes. Et c'est très proche. Quand on extrapole à ce qu'il y a dans la Voie lactée, on trouve qu'il y a plus de planètes que d'étoiles. Donc on a déjà 300 milliards ou 400 milliards de planètes dans la Voie lactée. Si vous multipliez par 300 milliards de galaxies, on voit que les planètes, il y en a énormément. Même de celles que l'on peut voir à l'intérieur de notre horizon. Évidemment, comme l'univers est infini, on peut dire qu'il y a une infinité de planètes. Et puis, on en découvre aussi qui ressemblent à la Terre. Il y en a des grosses, comme des Jupiters, il y en a des petites, comme Mercure, etc. Mais il y en a des qui ressemblent à la Terre et qui sont aussi dans une zone qu'on appelle habitable. C'est-à-dire qu'ils sont à une distance de leur Soleil qui permet l'eau liquide. Donc pas trop près, à ce moment-là, l'eau serait évaporée. Pas trop loin, elle serait en glace. Et on a beaucoup de terre, disons, de sosie de la Terre, qui soit un peu habitable avec de l'eau liquide.
Oui, mais même sur Terre, excusez-moi, serait pu ne jamais arriver. D'ailleurs, la probabilité que le vivant émerge dans nos conditions est elle-même très très faible. Ça n'aurait dû ne jamais arriver. C'est-à-dire que...
Ah, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que moi j'ai beaucoup observé le milieu interstellaire. On a du gaz, de la poussière interstellaire, et toutes les molécules comme la glycine, les premières protéines, sont trouvées dans le milieu interstellaire. On a des météorites même qui arrivent sur la Terre et qui ont de la glycine.
De là à se reproduire. Et oui. Évoluer,
et oui, mais quand on fait une petite expérience avec de l'UV, parce qu'il faut de l'énergie, évidemment, Urey avait fait cette expérience-là, et avait montré qu'on pouvait former quelques protéines comme cela. Ensuite,
alors, oui.
Évidemment, il faut des milliards et des milliards d'essais pour trouver une qui va se reproduire, un ADN qui va se reproduire, etc. Mais les milliards et les milliards d'essais, on les a. On les a et on a 13,8 milliards d'années pour le produire. Donc, on ne fait pas le défaut qu'avaient les premiers astronomes de toujours croire qu'on était au centre de l'univers, qu'on était les seuls. Je pense que, évidemment, c'est peut-être rare, mais il y a une infinité de planètes possibles et beaucoup de molécules organiques qui se trouvent dans le milieu interstellaire en grande quantité.
Je vous suis totalement sur le principe de vexation. C'est-à-dire qu'il a commencé avec Copernic, qui s'est poursuivi avec Darwin. Certains disent que Freud, c'est la troisième vexation. Moi, je pense que c'est plutôt Turing, pour rien vous cacher. Mais en dehors de ça, j'attends de voir. Parce que déjà, je trouve que c'est tout à fait improbable.
Alors,
la première bactérie soit déjà très improbable.
Déjà, même dans le système solaire, les gens le cherchent. Parce que là, c'est bon, c'est proche, on peut le voir. Et peut-être sur Mars, il y a beaucoup de théories qui montraient qu'il y avait de l'eau sur Mars, des canaux. Alors maintenant, Mars est assez asséché, il n'y a plus rien.
Mais s'il y a eu de la vie, on devrait le voir aussi.
Voilà, et c'est certain, il y a eu des fausses alertes. Hein. On a trouvé des petits cailloux de Mars où il y avait des traces qui, soi-disant, étaient de bactéries. Bon, mais en fait, on sait maintenant qu'il y a beaucoup d'eau sur Mars, mais elle est dans le souterrain. Elle n'est plus en surface. Il y a beaucoup d'eau sur Mars.
Donc, il faudrait plonger.
Voilà, exactement. Donc, on va envoyer des petits robots. Hein. On sait que dans la Terre, dans les océans, on a vu qu'il y avait beaucoup de vie dans les fumées noires. Surprenante. On ne s'imagine pas trouver tous ces petits animaux qui grouillent au fond des océans. Donc, pourquoi pas dans l'eau qu'il y a sous la surface de Mars. C'est possible. Alors, s'il y en a une sur Terre-Mars, ça veut dire que ce n'est pas si rare que ça.
Bah, s'il y en a sur deux fois, alors là, ça ne peut plus être une erreur.
Voilà.
Si la manip est reproductible, c'est que c'est N fois. Mais écoutez, je le souhaite, hein, on va voir ce qui se passe. Combien de temps il nous faut pour...
Alors pour l'instant, on progresse beaucoup puisqu'on a détecté la première exoplanète en 1995. On en a maintenant plus de 6000. Et maintenant, on a des télescopes qui peuvent faire des images de planètes parce que jusqu'à présent, on les détectait de façon indirecte en regardant l'ombre de la planète qui passe devant l'étoile ou bien en regardant la vitesse Doppler. Lorsque la planète fait reculer l'étoile un petit peu. Et puis, maintenant, on commence à les voir, à avoir des télescopes qui pourront peut-être voir, je ne sais pas, des océans ou de la végétation, après tout.
Que vous pensez que le vivant serait comme le nôtre?
C'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandé si on pouvait faire toute une vie avec le silicium et non pas le carbone. Et finalement, ça ne marche pas bien. Hein.
Oui. Mais bah, pourquoi pas?
Dans le milieu interstellaire, toutes les molécules organiques sont faites avec le carbone. Et le milieu interstellaire, on l'observe jusqu'au Big Bang. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment une autre chimie, quand on est près du Big Bang, c'est-à-dire qu'on a déjà fait 48 milliards d'années-lumière, et qu'on retrouve toujours la même chimie et les mêmes éléments, c'est quand même impressionnant.
Il reste que même sur Terre, depuis les expériences qui ont été faites par des gens comme Orgel, etc., on n'a jamais encore réussi, à partir des molécules organiques, à fabriquer un être qui ait un minimum de propriétés qui caractérisent le vivant, c'est-à-dire se reproduire et évoluer.
Oui, mais on est au début. On est au début. Moi, je suis
optimiste. C'est un début qui dure longtemps.
Mais quand on voit que la cosmologie, on connaît le Big Bang et l'avenir de l'univers, et encore, on ne connaît pas grand-chose, puisqu'on a l'énergie noire et la matière noire. Mais quand on sait qu'on le connaît que depuis 10 ou 20 ans, après tous les siècles qui nous précèdent, je pense que ça va peut-être s'accélérer de façon exponentielle, la connaissance.
Écoutez, j'attends avec impatience cette quatrième vexation. j'espère la voir de mon vivant, mais j'arrive à un âge où on peut avoir quelques doutes sur, sur cette possibilité.
Il faut dire aussi que les gens s'imaginent qu'on va pouvoir communiquer avec ces extraterrestres, et s'ils existent, hein, ou les voir, ou leur envoyer des signaux en tout cas. Et ça, c'est très très improbable par contre, parce que les gens ne se rendent pas compte des distances que l'on a. C'est-à-dire que les premières exoplanètes, les 6000...
Communiquer, vous voulez dire quoi? Même communiquer avec une bactérie, c'est pas très très facile.
Non, mais je veux dire vers des signaux avec une vie qui serait peut-être un peu plus intelligente qu'une bactérie, hein, puisque on peut penser que si on est passé jusqu'au seuil de la bactérie, à ce moment-là, on peut extrapoler une évolution vers un être assez intelligent pour envoyer quelques signaux. Parce que nous, on envoie des signaux. On a déjà, avec nos satellites, envoyé beaucoup de signaux.
Oui, nous peut-être, mais imaginez qu'une expérience par la pensée, comme dirait votre collègue Einstein, que nous revenions à il y a simplement 20 millions d'années, c'est rien, hein. C'est pas à vous que j'ai dit ça,
rien du tout.
En arrière, 20 millions d'années plus tard, on n'est pas là. Hein.
Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'à la fois dans l'espace et le temps, on a des espaces et un temps qui sont énormes.
Non, mais la probabilité d'avoir un organisme intelligent, capable d'envoyer des signaux, elle est encore beaucoup plus faible que celle d'avoir un organisme. Parce que c'est pas fatal d'avoir une évolution qui produit des êtres intelligents. C'est pas fatal.
Donc les gens ont essayé par imagination de multiplier ces probabilités pour savoir quelle était cette probabilité d'avoir des signaux. Il y a des gens qui attendent, qui essaient de détecter par un télescope certains signaux. On ne l'a toujours pas détecté. Mais je pense que même... les planètes les plus proches, il nous faudrait des siècles pour atteindre ces planètes. Donc
votre conviction, elle est fondée sur l'infini, en fait.
Exactement.
Voilà, c'est-à-dire que la probabilité est très basse, mais le nombre d'événements est si grand
exactement.
Que ça finira bien par arriver.
Exactement.
Et que s'il est arrivé une fois, ça doit arriver deux.
Exactement.
Et s'il est arrivé deux, ça doit arriver N.
Exactement.
Voilà. Donc, en fait, tout ce monde cosmique est habité de particules vivantes pour vous.
Oui. Oui, mais évidemment, elles sont rares. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas dans notre banlieue.
Ah oui, mais c'est la banlieue.
Voilà. Voilà.
Ça, c'est vraiment fascinant de penser comme ça. Je vous admire. Alors, mon pessimisme m'empêche de penser une chose aussi extravagante. Mais bon, vous avez certainement raison, puisque c'est un calcul au fond mathématique que vous faites.
Hein. Voilà. Mais je ne suis pas la seule. Hein. Je pense que beaucoup de
gens... Non, mais j'ai entendu d'autres astrophysiciens...
qui croyaient tout à fait à l'existence d'autres mondes.
Oui, tout à fait. J'ai toujours été frappé, d'ailleurs, par, au fond, l'optimisme des physiciens.
Et c'est-à-dire qu'on a une connaissance journalière de l'infinité de l'univers et des tailles et des nombres qui sont gigantesques. Donc, c'est pas possible que ce soit autrement.
Oui, notre quotidien, nous autres biologistes, est plus sordide.
Plus petit, hein. Il est quand même dans plus la... petit disons.
Oui, il est aussi dans la pourriture, dans la mort, la souffrance. Donc, on est moins optimiste. On n'est pas des particules. Vous voyez, nous sommes des particules organisées de façon très particulière, si j'ose dire. Dans les quelques minutes qui nous restent, cher Françoise Combes, au fond, si vous deviez faire un pari sur ce vers quoi nous allons, c'est-à-dire, qu'est-ce que, à part les petits hommes verts, entre guillemets, je dis ça pour vous taquiner, qu'est-ce que vous prévoyez comme grande découverte dans le domaine de l'astrophysique pour les, disons, les 100 années qui viennent? 100, c'est rien du tout.
100, c'est beaucoup, parce que déjà, à 5 ans, on n'arrive pas à prédire. Mais je vais quand même essayer de me prêter à ce jeu-là. En fait, on est en train de lancer des satellites comme l'Europe est en train de lancer Euclide, qui sera lancé en 2021-22. Et donc, on espère faire de grandes découvertes avec ce satellite, c'est-à-dire savoir quelle est l'énergie noire. Alors, cette énergie noire, c'est le destin de l'univers, justement. Est-ce que cette énergie noire va être une constante cosmologique? Et donc, on va avoir une expansion qui s'accélère, et qui va être un petit peu équivalente à un univers de 2 Cy-Terre exponentiel, où il n'y aura plus de matière. Ou alors c'est une quintessence, c'est-à-dire que c'est dynamique, donc il faut ajouter quelque chose, une 5e force, alors que pour l'instant on ne connaît que 4 forces. Donc il y a de la physique fondamentale là, qu'on va connaître. Et donc il n'y a que l'astrophysique qui va pouvoir débrouiller cela. Est-ce que Einstein avait raison? Est-ce qu'il faut rajouter une autre force? Et puis donc il y a le destin de l'univers.
Elle ressemblera à quoi cette autre force
Eh bien, on n'en sait rien, mais ce serait justement la cause de la matière noire et de l'énergie noire. Donc l'énergie noire, c'est quelque chose qui a un effet répulsif, alors que toute la gravité est attractive, donc c'est quelque chose de complètement différent, et qui explique que l'on a découvert en 1998 que l'expansion de l'univers était accélérée de façon exponentielle. Donc finalement, on s'aperçoit que notre horizon, qui contient 300 milliards de galaxies, bientôt il en contiendra beaucoup moins, et bientôt on n'aura plus de voisins, on n'aura plus de galaxies voisines. Donc tous ces petits hommes verts, on les verra plus.
On les verra plus, on ne pourra plus communiquer, il n'y aura plus de signaux.
Ils seront au-delà de notre horizon, il n'y aura plus rien. C'est ce qu'on appelle le Big Rip, ou quelque chose où l'univers serait en train d'être dilué. Il n'y aura plus que la Voie lactée. Et si on va encore plus loin, même les étoiles vont peut-être, l'étoile et la Voie lactée vont se disperser, donc on va être tout seul sur notre petit rocher.
C'est à quelle échéance, ça?
Ou ça, c'est beaucoup, ça c'est des ordres de grandeur plus grands que le temps de Hubble, c'est-à-dire que notre temps d'univers déjà, donc... Il n'y a pas de souci pour nous, hein. Il n'y a pas de problème.
Ça veut dire en milliards d'années.
Ça fait... Oui, oui, puissance 50 milliards d'années.
Mais le système solaire n'aura pas explosé d'ici là?
Ah oui, 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 nous sommes déjà plus là, mais on fait l'hypothèse que peut-être on sera parti sur d'autres planètes.
Ah oui, c'est oui. Toujours l'optimisme des physiciens. On a 6 milliards d'années pour trouver un autre endroit voilà. Où on puisse se loger tranquillement,
voilà.
C'est ça?
Voilà. On a Proxima du Centaure, par exemple. C'est une planète qui a l'air habitable.
C'est très loin?
Non, c'est à 4 années-lumière seulement. Rien du tout.
C'est une plaisanterie. Écoutez, chère Françoise Combes, merci beaucoup d'être venue et surtout de nous avoir un peu éclairé et montré la beauté de la physique. Parce qu'en fait, c'est ça que nous avons ressenti. C'est l'incroyable beauté de la physique. Et de l'astrophysique, mais de la physique de façon générale.
Qui
repose aussi sur ce lien, l'imagination et le lien avec les mathématiques, c'est-à-dire ce lien incroyablement, je dirais, identitaire entre mathématiques et physique. C'est-à-dire que ce après quoi nous courons, nous autres, depuis plusieurs dizaines d'années. Et merci encore, c'était très beau.
Merci.
Imagination par Alain Prochian. Prise de son, Éric Boissé. Réalisation, Christine Robert. Assistée de Delphine Derbier, stagiaire.